Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiphaine de Roquigny, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Nous le montrions en début de semaine, les politiques prohibitionnistes ont leurs limites, leurs failles, la persistance de phénomènes de violence, les conséquences sociales désastreuses, des problèmes sanitaires qui demeurent, autant d'éléments qui nous invitent à repenser les législations et les représentations des stupéfiants et de leurs usages. Mais comment réguler le marché des drogues, légaliser, dépénaliser, décriminaliser l'usage, la vente, la production des cannabis social club au ganja preneur, l'après-prohibition, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Got some legal weed.
We have won.
Nous avons gagné et je suis si fière que le Colorado soit le premier état du pays, le premier du monde. La prohibition, c'est terminé.
Ici, on ne vend rien. On ne chope rien. On n'achète rien, car vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui vous appartient déjà. Et donc, selon la loi espagnole, vous serez copropriétaire de tout ce que l'association possède, produit ou cultive. Règle numéro 1. Chaque fois que vous sortez de l'association avec du cannabis, vous devez le cacher dans vos parties intimes. Règle numéro 2. Ne pas consommer dans les espaces publics. Ceci étant dit, bienvenue messieurs, dames, dans notre association.
Quand un touriste vient à Amsterdam, nous tolérons qu'il consomme de la drogue dans les coffee shops ou dans sa chambre d'hôtel, mais pas dans la rue. Quand c'est interdit, les dealers vendent n'importe où et nous n'avons plus aucun contrôle.
Des Pays-Bas où, contrairement à ce qu'on entend parfois, il existe un régime de tolérance et non pas une autorisation de la consommation et la vente de petites quantités de cannabis permis par une loi remontant à 1976. Aux États-Unis, où en revanche depuis 2012, certains États ont fait le choix d'une légalisation de la consommation dite récréative, comme le Colorado, Washington, l'Alaska, l'Oregon et plus récemment la Californie, en passant par les cannabis social club espagnols. Quelles leçons peut-on tirer de ces différentes expériences? Que disent les textes de loi, les encadrements? Quels sont les différents modèles, les différents régimes d'organisation? Quels sont leurs effets sur la consommation, la production et le commerce? Et d'ailleurs, de quoi parle-t-on quand on parle de légalisation, de dépénalisation, de libéralisation? Que signifient ces nuances et surtout que nous disent les expériences en la matière? On s'intéressera à l'Europe, où bien que les États membres de l'Union européenne soient tenus par des conventions internationales, chacun possède quand même sa propre approche de la question. Nous verrons également du côté des États-Unis pour comprendre comment les choses ont évolué dans les différents États, car là aussi, il existe différents modèles. Reste à voir si des choix pourraient être opérés au niveau fédéral où, rappelons-le, le cannabis reste une substance de catégorie 1 et donc illégale. Il sera intéressant de voir comment, dans quelle mesure en tout cas, les avancées outre-Atlantique ont ravivé les débats ici en Europe sur le statut juridique du cannabis. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord en plateau ici à Paris, Ivana Obradovic, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP. Merci d'être avec nous ce matin. Avec nous depuis Lausanne, en duplex. D'ailleurs, je remercie les techniciens qui permettent de faire la liaison avec Jean-Félix Savary. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup également d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du GREA, le groupement roman d'études des addictions. On va commencer peut-être avec vous, Ivana Obradovic. Parce que ces dernières années, on a vu un certain nombre de pays outre-Atlantique opérer un certain nombre d'avancées législatives notables. Je pense à l'Uruguay, mais aussi évidemment aux États-Unis, où je le disais, depuis 2012, on a un certain nombre d'États qui ont pris le chemin de la légalisation, de la production, du commerce, de la possession, de la consommation de cannabis. Je pense à la Californie qui a été la dernière à passer le cap avec ce référendum en novembre dernier. Est-ce que vous avez le sentiment, première question, que on a pris conscience ici en Europe qu'un changement de paradigme est en train de s'opérer sur la question des drogues et en particulier sur la question du cannabis? Quels sont les effets finalement des évolutions en provenance de l'autre côté de l'Atlantique sur le débat européen, Ivana Obradovic? Vous sentez les choses frémir?
En tout cas, les termes du débat sont en train de changer. Effectivement, jusqu'à Jusqu'à il y a quelques années, on parlait plutôt d'un débat sur la dépénalisation, réduire les peines, les sanctions pénales qui sont appliquées aux consommateurs. Là, on est plutôt sur un débat qui tourne autour de la légalisation et sur l'idée que l'État doit s'en mêler et prendre ses responsabilités face à l'augmentation de l'offre de cannabis et du marché, et essayer de prendre sa place pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants, pour faire un jeu de mots un peu facile, et essayer de réhabiliter la place de l'État dans l'organisation du marché, de façon à l'encadrer, le structurer, le réguler, et séparer les marchés, c'est-à-dire faire en sorte que les consommateurs, au moment où ils s'approvisionnent, ne soient pas en lien direct avec les réseaux de délinquance et de criminalité.
Levons tout de suite les confusions. Libéralisation, légalisation, dépénalisation, décriminalisation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes différences et nous dire quelles sont les réalités qui se rapportent à tout ça?
Alors en gros, dépénaliser, ça veut dire réduire les sanctions pénales. Après, il y a différents degrés de dépénalisation possibles. Ça peut commencer par supprimer les peines de prison, puisque, comme vous le savez, en France, on fait partie des 6 pays européens qui traitent encore l'usage simple de cannabis comme une infraction pénale, passible d'un an de prison et de 3750 euros d'amende. La deuxième étape, le deuxième degré de dépénalisation, ça serait de contraventionnaliser. C'est une option dont on parle de plus en plus en France. Il y a eu un rapport récemment qui a été porté par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues, qui propose effectivement de contraventionnaliser, c'est-à-dire de pénaliser l'usage, puisque l'interdit serait maintenu, mais par le biais d'une amende plutôt que par une sanction pénale qui passe par les tribunaux et qui engorge les tribunaux, le système pénal, puisque c'est un contentieux de masse.
Et enfin, la légalisation.
Voilà, c'est le dernier stade de la dépénalisation. C'est-à-dire que l'interdit est levé dans ce cas-là, et effectivement, l'État s'en mêle, il prend part à la régulation, il prend part au marché, il encadre l'offre, il structure le marché, et il essaye effectivement de mettre en place des espaces de vente et d'achat, de contrôler la qualité des produits qui circulent sur le marché, et surtout de lever des taxes sur le marché du cannabis, autrement dit, d'avoir une source de recettes fiscales supplémentaires.
Jean-Félix Savary, je me tourne vers vous. Même question que je posais à Ivana Obradovic. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en Europe, on est en train de changer notre regard sur le cadre législatif quant à cette question des stupéfiants et en particulier du cannabis. Vous sentez-vous, depuis la Suisse, les choses changer ?
Alors, complètement. Et je dirais pas seulement en Suisse. Je pense partout en Europe. En Amérique, on en a parlé, mais aussi dans d'autres pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le débat sur la guerre à la drogue n'a plus tellement lieu d'être, vu qu'il a été gagné. Tous les acteurs s'accordent à dire que c'est un échec et qu'on n'a pas obtenu les résultats escomptés. Quand je dis tous les acteurs, c'est tous les milieux de la sécurité, les milieux politiques, les agences internationales, les États et les partis politiques. Mais maintenant, on a un problème, c'est qu'on sait que ça marche pas, ce qu'on fait. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire demain. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de discussions qui ont lieu derrière des portes closes pour savoir comment on va mettre les choses en place. Et aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce qu'il faut continuer ou non la guerre à la drogue, c'est comment on va changer et comment on va l'expliquer à la population à qui on a dit depuis 40 ans que c'était le produit, le problème. Mmh. Et donc je crois que c'est là où il y a un véritable changement. Donc ça se voit peut-être pas beaucoup au niveau du public, mais alors je peux vous certifier que derrière les portes des différentes administrations, ça discute de manière très approfondie.
Et oui, ça discute notamment au niveau des Nations Unies, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, en avril dernier, on a fait ce constat que finalement la prohibition, le tout répressif était un échec sur plusieurs plans, sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité, sur le plan social, sur le plan économique, mais on y reviendra tout à l'heure. Je reviens sur l'Europe avec vous, Ivana Obradovic. Vous distinguez dans un article extrêmement intéressant intitulé « Cannabis, état des lieux des législations européennes sur l'usage », trois catégories de pays en Europe, donc ceux pour qui l'usage du cannabis constitue une infraction pénale, vous le disiez tout à l'heure, la France est dans ce cas-là, ceux pour qui l'usage du cannabis c'est une infraction administrative, je pense au Portugal, l'Espagne, le Luxembourg, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et puis ceux pour qui l'usage n'est pas interdit par la loi, on a là la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte, la République tchèque, la Pologne, la Croatie, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie, ce qui veut dire en réalité l'essentiel, la majorité en réalité des États membres. À quoi tient le fait que tel ou tel pays fait le choix de tel modèle ? Est-ce que c'est lié à l'histoire, à la culture de chacun ? Est-ce que c'est lié à la nature du régime politique ? Comment comprendre ces différences à l'intérieur de l'Europe ?
Alors ça, c'est une question particulièrement difficile. Il y a des variations, effectivement, dans les modèles législatifs. Il y a aussi des variations dans les modèles culturels. Et puis, quand on parle du cannabis, il faut aussi parler de l'usage des autres substances, donc tabac, alcool, en premier lieu, qui sont légaux. Et puis, les autres substances illicites. Ce qui est frappant en Europe, c'est effectivement cette gamme très diversifiée de modèles qui ont quand même plusieurs points communs. D'abord, une tendance à réduire les sanctions pénales pour l'usage et la détention. Il y a à peu près une dizaine de pays qui ont dépénalisé depuis le début des années 2000 au sein de l'Union européenne. Et puis le deuxième point commun, c'est de profiter du système pénal, en quelque sorte, pour faire accéder les usagers aux soins. Autrement dit, prévoir des mesures sanitaires qui s'inscrivent dans le cadre du système pénal. En France, on a l'injonction thérapeutique, par exemple, qui sert à ça. Donc voilà, c'est une gamme de modèles culturels qui est différenciée. Et il y a aussi des différences dans les perceptions du cannabis. Puisqu'on le voit d'un pays à l'autre, la perception à la fois de l'accessibilité et de la dangerosité du cannabis n'est pas tout à fait la même.
Il y a des cultures différentes, il y a des régimes aussi différents. Jean-Félix Savary, vous qui vivez dans un pays qui est sous régime fédéral, est-ce que vous avez le sentiment que justement cette structure fédérale est plus propice à faire peut-être des expérimentations et donc éventuellement à faire évoluer son modèle et ses représentations sur ces sujets ?
Alors complètement, et je crois que l'histoire récente nous montre qu'effectivement, les avancées, elles se passent surtout sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quand on regarde concrètement quels sont les problèmes qui sont posés sur le terrain, qu'on s'assied ensemble, qu'on va trouver des solutions. Et c'est vrai que les premiers programmes de prescription d'héroïne ou des locaux sécurisés de consommation, en Suisse, on a été un peu pionnier là-dessus, mais c'est pas le gouvernement fédéral qui l'a introduit. C'est d'abord la pression des villes, ça c'est peut-être quelque chose à rappeler, c'est d'abord sur les villes, en Occident en tout cas, que se reporte l'essentiel des dommages qui sont liés à la guerre à la drogue. Donc plus d'insécurité, plus de mafia, plus de sentiments aussi de perte de familiarité avec l'espace public. Hein, c'est ce qui a été mis en avant notamment à Genève. Ça crée un sentiment d'insécurité et donc c'est là où on peut trouver des solutions. On le voit d'ailleurs aux États-Unis aussi, où en fait ce sont des projets d'initiative populaire, donc des citoyens qui ont mis au vote cette question là, qui ont fait que les choses ont changé aux États-Unis. Donc effectivement, les drogues étant un problème moral, il y a quelque part un tabou qui nous empêche de traiter ça proprement au niveau politique. Et donc c'est souvent des coalitions au niveau du terrain entre les forces de l'ordre, les milieux sanitaires, les milieux sociaux, les différentes communautés qui permettent de débloquer un peu la situation. Et donc pour ça, en fait, en Suisse, on a cette chance d'avoir ce niveau très indépendant des villes.
Alors il y a cette pression qui vient du bas, vous le disiez, et puis il y a celle qui peut éventuellement venir du haut et qui, on va le voir dans le cas de l'Union européenne, est extrêmement modeste, très prudente. Écoutez Dana Spinant, qui était la coordinatrice de l'unité antidrogue de la Commission européenne de 2010 à 2014.
Il relève de la responsabilité de chaque État membre de criminaliser, de décriminaliser ou de légaliser la consommation de drogue. La Commission européenne s'abstiendra de toute recommandation et de tout commentaire vis-à-vis des choix qui seront faits par chaque pays individuellement.
Voilà, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte, Légal, illégal, le cannabis en Europe. La Commission européenne s'abstiendra de toute recommandation et de tout commentaire sur les choix des États membres, nous disait Dana Spinant, donc la coordinatrice de l'unité antidrogue de la Commission européenne de 2010 à 2014. Ivana Obradovic, c'est vrai que même si les pays d'Europe voulaient faire évoluer leur législation en matière de stupéfiants et en particulier sur la question du cannabis, ils seraient en réalité limités par des textes, par des conventions qu'ils s'engagent à respecter. En l'occurrence, c'est la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que prévoient ces conventions et quel cadre elle impose, quelles contraintes elle impose aux États membres ?
Alors effectivement, il y a un ensemble de conventions internationales qui interdisent l'offre de cannabis, la production, la culture, la distribution. Ces conventions internationales, jusqu'à il y a quelques années, étaient considérées comme le référentiel de base, qui interdisait toute réforme, en tout cas dans le sens d'une légalisation. On a vu avec l'Uruguay en premier, fin 2013, qu'un autre modèle était possible, même si l'Uruguay a immédiatement été condamné par l'organe international de contrôle des stupéfiants est accusé d'être un État pirate. L'année suivante, le Colorado et l'État de Washington...
Rappelons quand même, pour être tout à fait correct, que l'Uruguay n'a pas signé la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988, ce qui fait quand même une différence.
Absolument. Mais ça ne l'a pas empêché d'être un peu mis au banc de la communauté internationale au moment de cette initiative. Et donc l'année suivante, en 2014, le Colorado et l'État de Washington ont voté, comme on le disait tout à l'heure, l'idée d'une légalisation qui a été mise en place quelques années après. Ça a été voté en 2012 et mis en place en 2014. Et effectivement, ces deux États américains ont un peu décomplexé à la fois l'Uruguay et puis un ensemble de pays, d'autres États américains également, puisqu'aujourd'hui, on en est à 8 États américains plus Washington DC qui ont légalisé la détention de cannabis, la vente pour certains, sauf Washington DC. Ça représente à peu près un habitant sur 5 aux États-Unis qui expérimente ou qui va expérimenter un régime légal de cannabis.
On va en venir aux États-Unis, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur l'Europe, parce que on comprend bien avec cette convention que finalement aucun membre de l'Union européenne ne peut aujourd'hui se lancer dans une forme de légalisation de la production, de la distribution du cannabis, ou alors il faudrait se retirer de cette convention de Vienne de 1988. Et à noter d'ailleurs que l'Union européenne, en réalité, est le seul territoire sur lequel s'applique cette convention des Nations unies. Et pourtant, on voit bien qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour les pays membres, puisque de fait, tous n'ont pas les mêmes législations.
Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, en Europe, il y a eu des tentatives de contourner un petit peu cette législation internationale, mais aussi nationale parfois, et puis d'essayer de s'inscrire dans les zones grises de la législation parfois. C'est ce qu'on voit en Espagne avec les Cannabis Social Club, qui ont à peu près une vingtaine d'années d'expérience maintenant, qui est une sorte de troisième voie entre la dépénalisation et la légalisation, c'est-à-dire que c'est des coopératives de consommateurs qui s'organisent sur le mode de l'autogestion. Alors les Cannabis Social Club en Espagne, c'est surtout la Catalogne et le Pays Basque. Il y en a à peu près 400 en Catalogne, notamment à Barcelone, qui a été surnommée la Nouvelle Amsterdam, et puis une centaine au Pays Basque. Et donc l'idée de ces Cannabis Social Club, c'est de pas alimenter le marché noir, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que les usagers puissent savoir ce qu'ils consomment, puisqu'ils le produisent eux-mêmes.
En tout cas, la marge de manœuvre, elle réside essentiellement dans le fait que personne, aucun pays n'est obligé d'incriminer directement l'usage. Le droit international n'impose rien sur ce point en particulier. Jean-Félix Savary, vous voulez réagir, je vous écoute.
Oui, tout à fait. Je pense que vous présentez les choses de manière correcte, mais en fait, elles ont complètement évolué l'année passée. Parce que ces conventions, jusqu'à l'année passée, étaient effectivement considérées comme telles, comme des textes qui s'appliquent à tous, mais notamment avec l'Uruguay et sa défense de son modèle. L'Uruguay, en fait, a une défense intéressante. Ils ont ressorti la Charte des Nations Unies, en dessus, donc, des conventions. Et donc, ils ont dit, écoutez, notre politique, elle vise les droits humains, et donc, c'est plus important que les conventions. Et les agences onusiennes ont accepté cette lecture. Et donc, depuis l'année passée, en fait, il y a quelque chose qui est venu en dessus des conventions. C'est ce qu'on appelle les SDGs, donc les Sustainable Development Goals, les buts pour le développement durable des Nations Unies, qui s'appliquent à tout le monde. Et ça, c'est venu chapeauter les conventions. Et ce phénomène, avec un autre phénomène qui est la nouvelle doctrine des États-Unis, qui est la flexibilité, c'est-à-dire que leur doctrine maintenant, c'est qu'il faut adapter les conventions à chaque cas, vu qu'ils ont réglementé le marché chez eux, ils peuvent plus dire aux autres de ne pas le faire. Et donc ces deux phénomènes concourent pour en fait dire que ces conventions, quelque part, on va plus les toucher, mais on s'inquiète pas trop de leur contenu. Aujourd'hui, on poursuit les objectifs du développement durable, donc c'est la paix, la formation, le développement social, et dans ce cadre-là, la question drogue doit être traitée. Donc je crois qu'on a un changement de la hiérarchie des normes au niveau international qui, au contraire de ce que vous laissiez entendre, ouvre complètement le champ, et effectivement, les pays maintenant peuvent s'avancer sans trop de difficultés dans des modèles de régulation, comme par exemple le Canada qui se lance ce printemps.
On va justement poursuivre sur cette idée et voir ce que change ce changement de paradigme du côté de l'ONU.
Il y a eu de nombreuses rumeurs sans fondement. Nos jeunes ne commencent pas si tôt que ça à consommer de la drogue. Les Nations Unies n'ont pas, comme on a pu l'entendre, appliqué de grosses sanctions parce que nous allions enfreindre les conventions que nous avions signées avec elles. Les organes des Nations Unies ont eux-mêmes constaté que malgré cette dépénalisation, il n'y avait pas eu d'accroissement ni d'explosion de la consommation au Portugal.
não tinha havido um...
Pelo contrário.
Uma explosão de consumos em Portugal, bem pelo contrário.
Voilà, c'était João Gaolo du service d'intervention contre les dépendances à Lisbonne dans un documentaire diffusé sur Arte en avril dernier pour en finir avec la guerre des drogues. Et non seulement les Nations Unies ont reconnu qu'il n'y avait pas eu une augmentation de la consommation de cannabis au Portugal, mais l'ONU aussi remis en cause dans son ensemble les politiques répressives conduites par la plupart des États. Et là, je me tourne vers vous à nouveau, Jean-Félix Savary, puisque vous en parliez déjà un peu. C'est vrai qu'en avril dernier, l'ONU est revenue sur les politiques menées en matière de lutte contre la drogue jusqu'ici. Les pays signataires des conventions internationales s'engageaient jusque-là à sanctionner la consommation, la production, la distribution des drogues. Et là, pour la première fois, les Nations Unies ont reconnu que les politiques prohibitionnistes avaient été un échec sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, finalement un échec total. D'abord, est-ce que cette déclaration des Nations Unies, je crois que vous étiez présent à ce moment-là, est une déclaration importante? Qu'est-ce qu'elle change très concrètement dans l'approche des différents États? Est-ce que vous parleriez véritablement d'une rupture? Et vers quoi est-ce qu'on pourrait aller dorénavant? Jean-Félix Savary.
Alors concrètement, à court terme, ça change pas grand-chose. Par contre, dans les conditions cadres du débat, je pense que ça change tout. Parce qu'il y a un pas qu'on a accepté de faire, qui est le pas qui débloque toute la situation. En tout cas, quand on l'a fait en Suisse, c'est ça qui nous a permis de développer de nouvelles solutions. C'est de passer de la guerre à la drogue, d'une approche de croisade, de penser que c'est la drogue le problème, à une autre approche qui est les problèmes liés à la drogue. La drogue, c'est une plante, elle est là, il y a des gens qui en consomment. On peut pas... Enfin, c'est très difficile à lutter contre quelque chose de ce type-là qui est un phénomène social. Par contre, les problèmes liés à la consommation de drogue, ça, paradoxalement, c'est assez facile à réduire. Il y a des problèmes sanitaires importants qui sont en jeu. Donc ça, on sait très bien le faire avec la réduction des risques, comment résoudre ces problèmes sanitaires. Il y a des problèmes sécuritaires qu'on pourrait très bien régler avec des modèles de régulation du marché. Il y a tout plein de problèmes sur l'espace public, par exemple. Hein. Donc ça, c'est aussi des choses où on trouve très facilement les solutions. Donc dès le moment où on déplace le focus d'une guerre croisade contre la drogue à une politique publique qui vise à réduire les dommages liés à la consommation et aux réglementations de ce produit, là, on se met dans le bon sens de la marche et on se donne les possibilités de trouver des solutions. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez frappant de voir à quel point des fois le débat peut être bloqué et à quel point, quand les gens se mettent autour de la table, les solutions, on les trouve. On les trouve assez facilement.
Vous avez raison, je me tourne vers Ivana Obradovic et peut-être je vais nuancer votre enthousiasme parce que effectivement. On s'est mis autour de la table, effectivement on a constaté cet échec, mais en réalité, Ivana Obradovic, l'ONU n'est pas allée très loin, c'est-à-dire qu'on constate effectivement que le modèle prohibitionniste a été un échec sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, mais en réalité on n'encourage pas du tout, à aller vers des modèles de régulation.
Alors effectivement, les partisans de la légalisation...
On pourrait voir le verre à moitié vide aussi. Hein.
Voilà, les partisans de la légalisation étaient un peu déçus par cette Assemblée générale des Nations Unies qui a pris acte quand même d'un certain consensus sur la difficulté, enfin l'absence d'efficacité finalement de ce paradigme prohibitionniste. Puisqu'on voit bien que finalement la pénalisation, elle n'a pas tant d'effet que ça sur les niveaux de consommation. Quand on regarde d'ailleurs les pays qui ont introduit une réforme dans le sens d'un assouplissement des sanctions, voire d'une légalisation, effectivement, ça n'a pas un impact, en tout cas à ce stade, très très marqué sur les niveaux de consommation. Donc le paradigme change, on commence à parler de légalisation, ça c'est quand même assez nouveau, et puis justement le cadre des conventions internationales n'est plus considéré comme un totem, ça devient quelque chose qui est possible à remettre en cause, et puis comme le disait Jean-Félix, effectivement il y a des instruments de politique publique qui sont mis en place pour lutter contre le cannabis, au-delà de la simple interdiction, avec l'idée d'une régulation, de restriction sur l'âge, l'âge autorisé de consommation, sur les quantités, sur les espaces de consommation aussi, puisque dans tous les pays qui ont légalisé, la consommation en public reste interdite. Ça, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi des licences professionnelles qui sont mises en place pour aux différents stades du marché, de la production, de la vente également. Il y a des registres de consommateurs qui sont mis en place, un système d'inventaire aux États-Unis dans les différents États qui ont déjà sauté le pas, un zonage aussi avec des périmètres, par exemple aux alentours des établissements scolaires. On ne peut pas ouvrir un pot shop, comme on dit aux États-Unis. Donc voilà, cette idée de réguler et d'utiliser les instruments traditionnels de politique publique, notamment l'instrument fiscal, c'est quelque chose qui est très nouveau.
Qui est très nouveau et qui pourtant n'a pas encore véritablement été intégré dans le dispositif onusien, Jean-Félix Savary. Est-ce que vous sentez-vous qu'on pourra avoir d'ici quelques années, parce qu'évidemment il faut le temps de développer tout ça, de mettre en place justement ces nouveaux outils, mais avoir un nouveau cadre? Est-ce que par exemple, il faut s'attendre à ce que l'ONU annule la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988? Vous pensez que ça va arriver, ça, Jean-Félix Savary?
Probablement pas. Moi, je pense que ce texte va mourir dans un coin. C'est un petit peu... Il y a un consensus là-dessus. Laissez ce texte dans un tiroir. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'aspect global des Nations Unies. Les Nations Unies, ce sont 190 quelques pays. Ils ont des cultures différentes. Pensons à l'alcool. L'ONU ne va pas obliger l'Arabie Saoudite à autoriser l'alcool, même si l'OMS travaille sur des normes de consommation d'alcool. Je crois que sur les drogues, il faut voir les choses de la même manière. Il y a des cultures différentes, on peut penser aux pays andins qui ont une certaine relation à la feuille de coca, à d'autres pays aux produits plutôt du cannabis, d'autres pays ça sera encore autre chose. Et donc il y aura une différence. La normalité qu'on avait aujourd'hui, c'est qu'on imposait la vision d'Amérique du Nord des drogues à l'entier de la planète. C'était ça le problème. Donc maintenant il faut arrêter d'avoir une vision culturelle unique, permettre des différences entre les pays et que les agences onusiennes se concentrent sur leur mandat. Et c'est ça le vrai changement, c'est-à-dire que l'OMS s'occupe des problèmes de santé liés à la consommation de drogue, que en fait les conflits armés qui sont directement liés au trafic de drogue soient intégrés dans les paramètres de gestion de la paix et d'aide aux populations dans les zones en conflit comme l'Afghanistan, la Colombie et autres.
Comment est-ce qu'il faudrait repenser, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, ce qui est l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est un organe d'experts indépendant, quasi judiciaire, qui a été établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Comment est-ce qu'il faudrait transformer cette entité-là?
Écoutez, moi, j'ai envie de vous faire une réponse un petit peu provocatrice. Les aider à trouver un nouveau travail, je pense. Effectivement, cet organe s'est distingué par sa vision spécialement étroite jusqu'à aujourd'hui de la question. Ce sont des juristes, ce sont ni des médecins ni des policiers, ils sont pas sur le terrain. Et donc, effectivement, ces conventions vont arrêter d'avoir un effet si important qu'elles avaient par le passé. Et donc, cet organe va perdre de son utilité au profit d'autres agences, et notamment la CND, qui est elle, la commission des États, donc en fait 53 États membres, donc c'est ça qui va décider dans le futur les prochains arbitrages. Et dès le moment où les traités sont interprétés de manière ultra flexible, où on voit que des traités prohibitionnistes autorisent même la légalisation, parce que c'est la situation actuelle avec l'Uruguay et le Canada, à partir de là, je crois que voilà, on peut commencer à écouter d'autres personnes que ce comité d'experts.
On s'intéresse à l'après-prohibition dans cette série consacrée aux guerres de la drogue, avec Ivana Obradovic, également Jean-Félix Savary qui est avec nous depuis Lausanne.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va partir du côté des États-Unis. L'usage médicinal du cannabis est désormais autorisé dans une vingtaine d'États des États-Unis. Plusieurs d'entre eux, comme le Colorado, l'Oregon et même la capitale fédérale Washington D.C., l'ont même légalisé pour un usage récréatif. Direction Washington.
C'est l'inauguration du Festival du Cannabis. Nous avons voulu créer cet événement pour soulever les problèmes économiques, environnementaux et de justice sociale liés au cannabis. La capitale de notre nation est le meilleur endroit pour le faire.
Je suis très heureux pour tous ceux qui avaient plus peur que moi de cultiver. Maintenant, on peut tous le faire, sans peur des répercussions.
Il y a même maintenant un festival du cannabis à Washington. On va retrouver une nouvelle invitée qui est Anne Philibert, qui est assistante de recherche au département de sociologie Université de Genève. Vous menez, Anne Philibert, tout un travail de recherche sur les différents modèles de régulation du cannabis, une perspective comparative entre les Pays-Bas, le Colorado, la Californie et l'Uruguay. Mais en ce moment, c'est surtout ces deux modèles sur lesquels vous travaillez, celui du Colorado et celui de la Californie. Je rappelais tout à l'heure que la Californie a voté en novembre dernier une légalisation par référendum de l'usage du cannabis, donc à usage usage récréatif, mais évidemment le dispositif n'est pas encore totalement mis en place. D'abord, première question, quelle différence est-ce qu'on a entre les lois du Colorado et celles de la Californie dans l'encadrement de la production et de la consommation de cannabis, Anne-Philibert ?
Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment fondamentalement différent. On va dire que c'est des modèles qui sont relativement similaires au niveau de la production, de la consommation, avec ceci dit des petites nuances, notamment sur une question en tout cas qui est relativement fondamentale pour la Californie, c'est la question de la consommation dans les lieux publics, qui jusqu'à présent n'avait pas été autorisée dans l'État du Colorado et qui est vraiment pour eux en tout cas une grosse avancée, sous un argumentaire en tout cas de santé publique, de permettre aux consommateurs de consommer ce dont ils ont envie dans les circonstances qu'ils ont envie.
Dans chacun des cas, c'est pour les plus de 21 ans. Évidemment, on peut cultiver 6 pieds de cannabis dans une pièce fermée, pas n'importe où. Dans le cas du Colorado, on peut se déplacer et en posséder jusqu'à 28 grammes. Il y a une vente sous licence qui est passible d'amende et des taxes sur les ventes qui s'élèvent à environ 30%. Du côté de la Californie, la récolte, je crois, elle ne peut pas quitter le domicile. Il y a évidemment des dispensaires qui vont arriver dans les mois qui viennent, mais tout ça n'est pas encore en place. Mais quoi qu'il en soit, vous dites que, en réalité, tout cela, du côté du Colorado, s'inscrivait dans une tradition un peu libertarienne assez profonde. Il y a eu la dépénalisation qui est en vigueur depuis 1975, l'usage à des fins thérapeutiques remonte à 2000, donc l'usage récréatif décidé par le Colorado, il était déjà dans une longue histoire très particulière au sein des États-Unis. Et surtout, vous dites que le vrai tournant, c'est l'expérience californienne qui va provoquer une rupture, en tout cas c'est ce que vous pensez, dans la manière dont on aborde les enjeux sanitaires, sécuritaires, sociaux, économiques. C'est ça le vrai tournant, c'est la Californie.
Le vrai tournant, c'est aussi le marché que ça représente. Donc en fait, c'est aussi un peu le nerf de la guerre, c'est de voir que au final, la Californie, c'est 40 millions d'habitants environ. C'est une population donc qui consomme, qui est aussi relativement importante. Donc ça représente un business qui est assez fondamental. Donc c'est vraiment aussi pour ça que ça représente ce tournant-là. Il est relativement intéressant de voir comment ils essayent de se défaire un petit peu des critiques qui ont déjà été faites sur le Colorado, avec notamment, par exemple, toutes les critiques qui ont été faites sur les... Le big cannabis, qu'on appelle le big cannabis, donc c'est des entreprises qui reprennent un petit peu les plus petits producteurs et qui finalement prennent un peu un monopole. C'est aussi un intérêt qui est de voir comment ils vont faire face à ça. Par exemple, il est prévu dans la législation en place, enfin qui va être mise en place, de limiter, on va dire, pendant 5 ans, les petits producteurs, enfin de les protéger en tout cas, de limiter au maximum le fait qu'il y ait des gros entrepreneurs qui viennent et qui investissent dans le marché en ne leur octroyant pas des licences si jamais on estime qu'ils ont vraiment trop de production déjà qui sont entamées en tout cas.
Alors, c'est le modèle économique, effectivement, Anne-Philibert, mais si on devait jouer au jeu des différences entre, une fois de plus, le Colorado et la Californie, vous dites qu'il y a eu en Californie une campagne bien plus large que ce qu'il y a eu au Colorado. Il y avait des activistes, mais il y avait aussi des professionnels de santé, des éducateurs, des responsables politiques, des législateurs. On a eu une mobilisation extrêmement large du côté de la Californie.
Oui, c'est plus large. C'est plus large aussi, notamment sur tout ce qui concerne aussi l'argumentaire, en tout cas, de la justice sociale, qui est vraiment pour le coup une nouveauté et qui est un petit peu l'idée de voir quelles sont les conséquences de la prohibition au niveau des États-Unis en général. Quelles sont aussi les conséquences de la régulation qui a été mise en place dans des États comme le Colorado, voir quelles sont les populations qui ont été mises de côté, en fait, et de voir un petit peu que certaines populations qui étaient déjà stigmatisées au moment donc de la prohibition, donc qui étaient particulièrement ciblées par les forces de police, etc., donc voir comment ces populations finalement n'ont pas réussi à s'approprier ce nouveau marché qui s'est ouvert et finalement qui est relativement un marché relativement blanc, on va dire.
Vous parliez, Anne-Philibert, tout à l'heure de la question économique, du business. Quand on regarde les choses, le secteur du cannabis, il a augmenté de 30% en 2016. Si on regarde un peu les chiffres, c'est 6,7 milliards de dollars de ventes pour l'année 2016. C'est-à-dire que c'est une augmentation qui est plus importante que le secteur de la high-tech dans les années 90. C'est dire, évidemment. Trump, c'est un homme d'affaires. Donc, on peut imaginer que la manne financière que représente le secteur du cannabis pourrait le pousser à laisser se développer.
L'estimation pour la Californie seule, c'est environ donc 7 milliards de dollars, qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à peu près l'ensemble des bénéfices du cannabis à l'échelle des États-Unis. Donc rien qu'un seul État va représenter donc ces bénéfices-là. Donc oui, en effet, ça paraît relativement risqué pour lui de vouloir fermer ce marché-là, en sachant qu'il est quand même relativement polyvalent aussi sur la question. On l'a déjà entendu se prononcer en faveur de la légalisation du cannabis médical. Ensuite, il est vraiment ambigu. On ne sait pas exactement ce qu'il en sera, notamment sur la nomination éventuelle du département de la justice, Jeff Sessions, qui est profondément anti-drogue et anti-marijuana. Donc on peut se demander, en effet, quel va être le résultat de cette nomination et puis de voir un petit peu quels sont les effets de cette nouvelle présidence.
Mais en tout cas, on voit que dans ce monde des producteurs, des entrepreneurs, des militants, on est extrêmement vigilant. On voit déjà qu'il y a une mobilisation très forte pour protéger les avancées. On a vu au moment de l'investiture cette opération hashtag Trump 420 où les Américains, en tout cas ceux qui étaient dans des lieux qui le permettaient, étaient invités à consommer du cannabis 4 minutes 20 secondes après l'investiture de Trump. On voit bien que là, les activistes pro-légalisation sont extrêmement mobilisés et comptent bien protéger les avancées qu'il y a eu ces derniers temps. Peut-être encore un dernier mot, Anne-Philibert. L'année dernière, il y avait une pétition qui avait été envoyée à l'Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, la DEA. Elle avait fait savoir qu'au niveau fédéral, le cannabis reste une substance de catégorie 1 et donc illégale au niveau fédéral. Est-ce que vous pensez que là aussi, les choses pourraient changer? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le cannabis soit légalisé au niveau fédéral?
En tout cas, c'était vraiment une attente, on va dire même limite. Quand on regarde la nouvelle régulation pensée pour la Californie, on se voit donc qu'il y a cette limitation pendant les 5 ans. En ayant l'idée que on va limiter pendant 5 ans et que probablement après, il y aurait une légalisation au niveau fédéral. C'est là que vraiment interviendraient un petit peu ces gros acteurs qui pourraient prendre la part du marché. Donc en fait, il y avait déjà un petit peu cette idée que dans les 5 à 10 ans, il y aurait une légalisation au niveau fédéral.
Une déclassification du cannabis en tout cas.
Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, en effet, c'est beaucoup moins dans les esprits. Et en tout cas, on pourrait imaginer en effet qu'il y ait un schéma ou qu'il reste beaucoup plus dans un statu quo finalement, où Trump ne touche à rien finalement, hein, parce que il y a quand même aussi une base de son électorat au niveau républicain. Si on regarde dans les 8 États qui ont eu une légalisation en novembre, que ce soit une légalisation récréative ou médicale, il y a quand même 5 États qui sont aussi des États républicains. Donc il y a aussi toute une part de son électorat qui finalement n'est pas totalement en défaveur de ces légalisations.
Oui, mais en réalité, pas une si grande différence avec son prédécesseur, parce que Obama était extrêmement prudent aussi sur ces sujets-là. En réalité, il y a eu des avancées au niveau des États, mais pas au niveau fédéral.
Tout à fait, oui. Donc là, il a vraiment plutôt levé un petit peu le renforcement un petit peu de la loi fédérale au niveau des États qui ont passé la légalisation, mais c'était relativement faible. Ce qu'on peut penser, c'est que finalement, que Trump choisisse de ne pas réellement se mouiller ou voire de mettre quelques bâtons dans les roues auprès des personnes qui sont impliquées sur ce marché, plutôt que de réellement changer des choses de manière profonde.
Merci beaucoup Anne-Philibert. Donc je rappelle, assistante de recherche au département de sociologie, Université de Genève. Je me tourne vers mon plateau et puis ensuite on ira du côté de Lausanne. Ivana Obradovic, réaction sur ce cas américain, sur cette mise en regard entre le Colorado et la Californie, dont finalement les modèles ne sont pas si différents en réalité, hein.
Alors sur la Californie, il y a 3 points intéressants à relever. Le premier, c'est que ça a été un des premiers États, dès les années 70, à parler de légalisation. Ça a été le premier à légaliser le cannabis médical au milieu des années 90. Donc on a été un peu surpris finalement que ça soit le Colorado le premier à légaliser. La Californie a même sans doute été un peu vexée de ne pas avoir été pionnière sur ce coup-là. Le deuxième point intéressant, c'est vraiment le changement d'échelle auquel on assiste avec la légalisation en Californie. Déjà au niveau de changement d'échelle, au niveau de la campagne, c'était une campagne quand même à 22 millions de dollars. Ce qui est presque 5 fois plus qu'au Colorado. Changement d'échelle aussi du point de vue démographique, Anne-Philibert le disait, du point de vue économique, puisque c'est une économie 50 fois plus importante que celle du Colorado. C'est quand même la 6e puissance économique mondiale, la Californie. Ouais. Donc on change de système. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une innovation dans ce qui a l'air d'être proposé, qui sera mise en place à partir de 2018. Hein. C'est l'idée de mesure anti-monopolistique, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans le Colorado, où a été dénoncée justement une certaine dérive du système avec une offre qui a explosé, notamment sur, et ça c'est vraiment la nouveauté de ce marché du cannabis, des produits à base de cannabis, c'est-à-dire plus seulement du cannabis fumé, mais aussi des produits comestibles à base de cannabis.
Et puis j'indique peut-être pour les auditeurs qui penseraient que ces évolutions engendrent des augmentations de la consommation, c'est en tout cas visiblement pas le cas du côté du Colorado, puisque le gouvernement local a annoncé des chiffres. 1 jeune sur 5 a consommé du cannabis dans les 30 derniers jours. Le chiffre exact, c'est 21,2% de ces jeunes, contre 21,7% pour la moyenne américaine. Jean-Félix Savary, réaction sur ce cas américain.
Oui, alors moi, dans la poursuite de ce que dit Ivana, je pense que c'est ce dernier point qui est très intéressant sur le marché. En fait, avant, on avait une vision noir et blanc, prohibition contre libéralisme. Mmh. Donc, quand on a levé la prohibition de l'alcool, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est un produit comme les autres. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est le big business de l'alcool, comme le big tobacco, les tobacco files. Donc, ces mensonges des grandes industries qui ont trompé le public sur le danger que représentaient leurs produits. Et donc, on est en 2017. On a le droit de réfléchir différemment à certains types de marchés sensibles. Et c'est ce qu'a fait la Californie. Et donc, elle a un système qui, effectivement, en connaissance, c'est le premier hein, par rapport à ce genre de produits, qui a comme philosophie « small is beautiful », c'est-à-dire plus c'est petit, plus c'est local, plus c'est développement durable, plus c'est bio, mieux c'est. Et donc, elle favorise de manière très explicite les micro-entrepreneurs pour essayer de casser ces gros monopoles. D'une part, et d'autre part, elle a une fiscalité qui redistribue directement l'argent sur une problématique similaire. C'est-à-dire que les milliards qui vont être générés, légalement, à 60%, ils sont affectés aux activités de jeunesse. C'est pas du tout stupide, c'est quelque chose de très intéressant. Mmh. C'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi sur l'alcool. Et donc, on voit que ce débat du cannabis, au-delà du cannabis, il nous permet de repenser les politiques publiques en matière de substances psychoactives. Et là, en fait, on a des idées modernes qui vont être testées sur le cannabis, qui pourrait peut-être aussi nous inspirer sur l'alcool ou sur le tabac, où on a des taxes assez lourdes qui vont après dans le budget de l'État pour financer d'autres postes, comme les forces armées ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, on a peut-être des besoins dans ce domaine-là. Et on critique souvent les consommateurs comme étant des gens qui seraient à la charge de la société, mais on oublie qu'ils contribuent très lourdement avec leur fiscalité au fonctionnement de l'État. Et donc là, ce nouveau modèle en Californie, il permet aussi de refaire le lien. C'est-à-dire, oui, peut-être, il y a des coûts, mais c'est les consommateurs qui le payent dans leur dans le taxe qu'il y a dans le produit. Et donc là, voilà, c'est une ouverture intéressante.
Alors revenons sur ces ouvertures, sur ces idées modernes et aux racines de ces idées modernes. On a l'Uruguay. Écoutez le président uruguayen José Mojica, c'était en 2013.
C'est une expérience et naturellement, comme pour toute expérience, il y a un risque et nous devons avoir l'intelligence de dire que si elle nous dépasse, nous enclencherons la marche arrière. Nous ne devons pas nous braquer. Je ne vais pas commencer à dire que la marijuana, c'est bien ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bonne addiction. Mais l'homme est la seule créature qui agit contre lui-même. Il sait que c'est mal de fumer, mais il continue à fumer. C'est pareil avec le cannabis. Je crois que nous pouvons contribuer à faire avancer l'humanité, faire une vraie contribution à l'humanité. Nous pouvons être un laboratoire mettant en œuvre des mesures pour aider à lutter contre le problème et utilisant des outils pour lutter contre l'addiction.
Voilà, José Mojica, le président uruguayen en 2013, son pays devenait alors le premier à adopter par voie parlementaire une loi légalisant le cannabis et donc à réguler le marché sur son propre territoire. Ivana Obradovic, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que c'est l'Uruguay qui a ouvert la marche. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce changement de paradigme du côté des Nations Unies. C'est vrai que l'Amérique latine dans son ensemble est particulièrement exposée à toutes les conséquences de ce tour répressif, de ces guerres contre la drogue. On en parlait en début de semaine, on a vu le Mexique, la Colombie ou encore le Salvador qui évidemment ont beaucoup de mal à se débarrasser de leurs groupes criminels, paramilitaires, plus ou moins directement impliqués dans la production et le commerce de stupéfiants. Donc on comprend bien que ces pays finalement aient peut-être eu envie de changer justement ce paradigme, mais l'Uruguay c'est pas véritablement le cas. Alors pourquoi est-ce que l'Uruguay a ouvert la marche?
Alors effectivement, l'Uruguay est un pays un peu particulier. Déjà, il y a ce personnage de José Mujica qui est un personnage très charismatique, un ex-guerriero qui a passé des années dans les geôles de la dictature militaire et qui avait une position particulière en termes de réformisme des mœurs. Il y a eu pas mal d'avancées en Uruguay sur le mariage homosexuel, une tradition aussi de progrès social. C'est un des premiers pays d'Amérique latine qui a légalisé l'IVG, par exemple, et qui a accordé le droit de vote aux femmes. Donc il y a cet historique particulier dans ce petit pays hein, de 3,5 millions d'habitants. Et puis, bah, pour Mujica, c'était aussi une sorte de coup de force pour s'imposer sur la scène internationale. Sa grande phrase au moment de la légalisation, c'était de dire « quelqu'un doit commencer en Amérique latine », avec l'idée que c'était une région victime de la violence.
C'est très osé de sa part. C'est très osé de sa part sur la scène internationale, mais aussi sur la scène nationale, parce qu'en réalité, à l'époque, l'Uruguay, quand il fait ce choix, l'opinion est opposée à la légalisation. Absolument. À près de 60%, on pourrait penser que c'est l'opinion qui a poussé, mais pas du tout. Il est allé aussi contre sa propre opinion. Jean-Félix Savary, pourquoi est-ce que l'Uruguay ouvre la marche ?
Alors là, comme l'a dit tout à l'heure Ivana, il y a des questions locales, mais ce que j'aimerais dire par rapport à l'Amérique latine, c'est que la première commission qui a vraiment secoué le cocotier et au niveau mondial, c'était la commission d'Amérique latine qui s'appelait Drogue et démocratie. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins ici. En Amérique latine, le principal problème, c'est la défense de la démocratie, la défense de l'état de droit contre la corruption des drogues. Ça, c'est un problème qui gangrène tous les États. On a aussi, bien sûr, les conflits armés, le niveau de violence jamais atteint en Europe par rapport à ça. Et quand on parle de politique drogue en Amérique latine, on parle d'abord de guerre et de défense de l'état de droit. Et donc, effectivement, tous ces pays sont secoués par ça. Et José Mujica avait peut-être cette stature d'indépendance qui lui permettait d'être le premier. Mais je pense que c'est très intéressant de revenir sur cette perspective et de voir aussi quel rôle peuvent avoir joué les juges en Amérique latine, notamment en Argentine, où les juges sont très engagés et dénoncent ces phénomènes de corruption qui sont liés à la drogue. Je crois que ça existe aussi en Europe. Certains ont le courage d'en parler. On parle quand même d'un marché de 400 milliards, plus ou moins, estimé à 300-400 milliards par année de dollars. Donc, tout cet argent, où va-t-il? Que fait-il? Comment on peut expliquer que des containers entiers arrivent sur les ports sans être inquiétés? Voilà, c'est un commerce gigantesque, avec des profits gigantesques, proches du niveau du pétrole. Personne n'en parle, et en fait, on n'attrape que les petits. Donc, je crois qu'il y a vraiment des questions à se poser plus profondément, et c'est un débat démocratique aussi en Amérique latine, le débat sur les drogues.
Et le débat, justement, il s'était poursuivi un peu plus au nord, on va prendre la direction du Canada. En 2015, Justin Trudeau, devenu maintenant le chef du gouvernement canadien, avouait avoir déjà été consommateur de cannabis. Il appelait de ses voeux une véritable évolution, révolution, d'abord dans les esprits et puis ensuite peut-être dans les lois. Écoutez.
Mais oui, j'ai déjà essayé peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie.
Depuis que vous êtes élu?
Mais là, non, dans ma vie au complet. Je l'ai raconté, j'étais dans un souper entre amis, chez moi, sur la terrasse en arrière de la maison. Il y a quelqu'un qui avait un joint, il l'a allumé, on l'a passé. J'ai pris une puff et je l'ai passé à la prochaine personne. C'est pas quelque chose qui est de l'inconnu pour la grande majorité des Canadiens.
Est-ce que pour vous, c'est une erreur?
Non, c'est pas une erreur. Je ne consomme pas du cannabis. Je ne suis pas un grand consommateur du tout. J'ai déjà essayé. Une des raisons pour laquelle je suis pro-légalisation, c'est que justement, ça va nous permettre d'éliminer beaucoup plus l'accès aux jeunes à la marijuana. Alors, même ceux qui sont en désaccord avec moi vont respecter le fait que je me base sur la science, je respecte le choix et la liberté de choix des autres et je suis ouvert et intègre dans la façon
mais
que
la
je
loi
me présente.
Voilà, Justin Trudeau en 2013 qui avouait, qui assumait avoir consommé de la marijuana. Jean-Félix Savary, l'année dernière, dans son discours de politique générale, le Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé vouloir légaliser le cannabis. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au problème des drogues dont on parlait tout à l'heure, la ministre de la Santé, Jeanne Philpott, avait annoncé que son gouvernement allait légaliser la consommation et le commerce du cannabis au printemps 2017, c'est-à-dire là, dans les semaines qui viennent. Ça sera le Canada un nouvel exemple, un nouveau modèle de légalisation du cannabis pour l'ensemble du monde ? Jean-Félix Savary.
Tout à fait, parce que d'abord c'est le premier grand État qui a une tradition de santé publique et de sérieux vraiment des politiques publiques qui le fait. Et moi je suis très très impressionné par ce qui se passe au Canada. J'invite d'ailleurs aux personnes qui s'intéressent à ce débat à lire peut-être ce qui est produit notamment par le groupe de travail sur le cannabis. C'est d'une très grande qualité et en fait ce qu'on voit c'est qu'on peut très bien être en désaccord profond sur certaines manières de voir le cannabis mais que pragmatiquement différents sur certains sujets, c'est assez facile de se mettre d'accord. Et en fait, ce groupe de travail, en intégrant toutes les stakeholders, les parties prenantes, est arrivé à faire des recommandations sur tous les points de détail. Hein. Qu'est-ce qu'on fait en matière de circulation routière? Qu'est-ce qu'on fait en matière de packaging? Qu'est-ce qu'on fait en matière de promotion? Toutes ces questions-là trouvent des réponses. Et on a effectivement dans la science quand même pas mal de données qui nous permettent de savoir où on va. Peut-être rebondir aussi ce qui
était... En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais je vous en prie.
Oui, alors peut-être, mais le dernier point qui est vraiment très important, c'est que, comme a dit le président Mourica, l'ancien président Mourica, il faut toujours évaluer. Et effectivement, ça, le Canada va le faire très bien. C'est définir des indicateurs pour pouvoir suivre au plus près quand il y a un problème pour tout de suite changer. Et donc ça, c'est vraiment le rôle de la recherche. On avance quand même dans un territoire inconnu, donc n'avançons pas n'importe comment. Il faut avoir les instruments de surveillance qui sont au point pour pouvoir prendre les adaptations nécessaires quand il y en aura besoin. Et bien sûr, il y aura besoin d'adaptation.
Ouais, et contrairement à Mourica dont vous parliez tout à l'heure, Justin Trudeau, lui, il a un autre avantage. Il a, vous lisiez les études scientifiques, mais il a aussi l'opinion avec lui. Parce que là, pour le coup, il y avait un son très récemment de l'Institut Angus Reid qui indiquait qu'un peu plus de 2 Canadiens sur 3 approuvent cette idée de la légalisation du cannabis. Ivana Obradovic, en quelques mots, on arrive au terme de cette émission. En guise de conclusion, sur le Canada peut-être.
En guise de conclusion, on a aujourd'hui au moins 3 modèles qui se distinguent de régulation du cannabis. Un modèle à vocation commerciale aux États-Unis, en gros. Un modèle d'autoproduction avec les Cannabis Social Club. On en a quelques-uns en Europe et puis en Uruguay. Et puis un modèle de monopole d'État. Là encore, c'est plutôt l'Uruguay. Le Canada a l'air de s'acheminer aussi vers un modèle de ce type, d'après ce qu'on peut savoir à ce stade. Et puis, d'ici la fin de l'année, on mène une étude qui s'appelle Canalex avec l'INESJ. Au FDT et INESJ, et on travaille justement sur les retombées de ces nouveaux systèmes de régulation au Colorado, dans l'État de Washington et en Uruguay.
Oui, très intéressant. On voit là ces différents modèles qui prouvent que d'une certaine manière, on a déjà basculé dans la pré-prohibition. Reste à voir quel modèle finalement l'emportera. Peut-être que tous d'ailleurs cohabiteront dans les prochaines décennies. C'est peut-être le plus probable. En tout cas, un grand merci à nos deux invités. D'abord, Jean-Félix Savary qui était avec nous en duplex depuis Lausanne. Et un grand merci également à vous, Ivana Obradovic. Je rappellerai que vous avez participé à un numéro de février de la revue Esprit intitulé « Politique des drogues ». C'est bien cela ? Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Somebody shout out, I great in the wee hours of the morning. Do you want Jam Jam, Silver Ace, Baba Kush, Cowboy? One arm's good for me. G4, AK4A, Arizona. One arm's good for me. Jacker, Granddaddy Prince, vomit now, okay. One arm's good for me. 11h passées de presque 53 minutes, l'heure de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Avec vous, Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Florian.
Alors depuis lundi, vous nous présentez le dernier livre d'un historien des idées américains, Mark Lilla, consacré aux penseurs réactionnaires. Après Frank Rosenzweig et Eric Fogelin, un troisième philosophe, Léo Strauss, pourquoi est-il devenu le penseur phare et du néoconservatisme, lui qui n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la politique américaine ?
Eh bien oui, c'est un vrai mystère Florian. Disparu en 1973 dans une certaine obscurité, ce professeur américain né juif allemand a connu une espèce de gloire post-mortem qui n'a cessé de s'amplifier d'ailleurs. Et c'est l'un de ses étudiants et disciples, Alan Bloom, qui a ramassé la mise avec un livre, L'âme désarmée, paru en 1987 avec un retentissement mondial. Alan Bloom y critiquait le déclin de la culture américaine et l'abandon des humanités. Mais qu'y avait-il donc dans les œuvres de Léo Strauss, ce philosophe érudit, qui puisse inspirer l'équipe de George Bush? Qu'ont-ils bien pu y trouver pour justifier leur politique des gens comme Paul Wolfowitz ou Irving Kristol qui s'en réclamaient? Eh bien, ce qu'ils ont trouvé chez Léo Strauss, c'est une critique extraordinairement radicale de la modernité ou, comme il disait, du projet moderne. Pour lui, pour Strauss, si on compare ce qui nous tient lieu de philosophie politique aux textes fondamentaux de l'Antiquité et du Moyen-Âge, il n'y a pas photo. Les anciens nous étaient bien supérieurs. Leurs questions étaient les bonnes, celles que nous ne savons même plus poser. Citation de Strauss. Les penseurs de jadis eurent des intuitions qui nous sont devenues inaccessibles. Les limitations de notre esprit nous empêchent de les imaginer. Bref, intellectuellement, nous sommes tombés de plus en plus bas depuis les Lumières, le nazisme étant de ce point de vue une espèce de degré zéro puisqu'il aurait constitué l'apogée du fameux projet moderne. Pour Hitler et les siens, écrivait Léo Strauss, seul est vrai ce qui réussit. Ils avaient donc atteint le point limite d'un nihilisme auquel nous ne sommes nullement étrangers nous-mêmes. Car nous autres, démocratie moderne, tout ce dont nous sommes capables, c'est de bricoler nos sociétés à l'aide de la boîte à outils d'une ingénierie empruntée aux sciences sociales. Nous n'avons pour horizon que l'accroissement des moyens de la puissance en toute méconnaissance du bien et du mal. Comme disait Strauss, qui avait le sens de la formule, bon sens en détail, folie en gros. Bref, comme l'écrit Marc Lilla, Léo Strauss déplorait l'abandon d'une manière de penser issue du passé qui lui semblait plus saine. Pour les classiques, disait Léo Strauss, la nature dictait les normes supérieures. Nous croyons, nous, pouvoir édicter de telles normes sans nous référer à quelque horizon que ce soit. Aussi, construisons-nous nos sociétés sur du sable, étonnez-vous qu'elles s'écroulent.
Alors, Léo Strauss est surtout connu pour sa critique du relativisme. Que faudrait-il entendre par là, en tout cas d'après lui ?
Pour nous, tout est affaire de temps et de lieu. Rien n'est préférable ni supérieur. Tout se vaut. Objection de Léo Strauss. Non, toutes les civilisations ne sont pas également respectables, sinon l'anthropophagie n'est qu'une affaire de goût. En outre, ajoutait-il, je le cite encore, « si nos principes n'ont pas d'autre fondement que notre préférence aveugle, rien n'est défendu de ce que l'audace de l'homme le poussera à faire. L'abandon actuel du droit naturel conduit au nihilisme. » Fin de citation. Les nazis, eux, ont tout osé. Contrairement à ce que prétend la pensée progressiste, ils n'étaient pas animés par une hystérie de l'ordre et de l'obéissance, mais au contraire, lancés dans le grand défoulement collectif d'une volonté de puissance sans tabou ni limite. Autre angle d'attaque contre la modernité, l'historicisme couplé en la croyance au caractère inéluctable du progrès est la plaie du monde contemporain qui s'imagine supérieur aux époques qui l'ont précédé, citation de Léo Strauss. Or, cet historicisme qui nous fait juger le passé de haut au nom de nos valeurs du jour nous expose à être jugés nous-mêmes à notre tour demain et nos héritiers nous condamneront au nom de leurs valeurs, de même que nous nous croyons autorisés à condamner nos ancêtres au nom des nôtres. En outre, cette déformation nous empêche de comprendre ce que les grands penseurs du passé avaient à nous offrir. Nous ne parvenons plus à les penser comme ils se pensaient eux-mêmes. Pour autant, on ne peut pas qualifier toute la philosophie de Léo Strauss de passéiste ou de nostalgique. Il cherchait à donner un fondement solide à nos systèmes politiques et pensait l'avoir trouvé dans le droit naturel. Il cherchait des principes valables de manière universelle. Il disait « chaque société a son propre système de poids et de mesure, sa propre monnaie, mais les notions de distance, de poids, de valeur, eh bien, elles sont partout présentes ». Léo Strauss tenta de convaincre les Américains que leur système politique avait été bâti sur le droit naturel et qu'ils devaient renouer avec cet héritage. Les néo-conservateurs en tirèrent, eux, l'idée que leur pays avait une mission de rédemption historique mondiale et d'intervention tout azimut. L'anniversaire de sa mort, Léo Strauss coïncidant avec l'intervention en Irak, il en fut déclaré le penseur en chef. Mais comme l'écrit Marc Lilla, on a passé au crible tous ses écrits sans trouver la moindre trace d'une quelconque idée de droit d'ingérence. Alors vous me direz, il est possible aussi que Léo Strauss, par prudence, n'ait pas écrit tout ce qu'il pensait, comme il supposait l'avoir fait ses chers philosophes du Moyen-Âge, Averroès et Maïmonide.
Merci beaucoup Brice Couturier. On poursuivra demain ces interrogations sur cette pensée réactionnaire de cet historien américain, Marc Lilla.
S'appelle, c'est pas traduit. Hein.
Auquel on s'intéresse depuis le début de la semaine. J'invite les auditeurs évidemment à réécouter les précédentes émissions www.franceculture.fr. On réécoute les chroniques, on podcast. Même le plus simple, c'est de s'abonner, Brice. Hein. C'est reste encore le mieux. Merci beaucoup, Brice. On vous retrouve demain.